VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Élection présidentielle en Algérie, après pratiquement 10 mois d'une contestation populaire massive qui a conduit à la démission du président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens votent ce jeudi pour élire le successeur du président déchu dans un scrutin massivement rejeté par les partisans du changement qui considèrent le processus électoral comme une manœuvre de survie d'un régime dont ils exigent le démantèlement. Selon le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chaoufi, 90% des quelque 61 000 bureaux de vote du pays sont ouverts depuis 7 heures temps universel, 8 heures heure locale à travers tout le pays. Et près de 6% de ces bureaux sont la cible de perturbations. Dans la région frondeuse de Kabylie, dans le nord, au moins 2 centres de vote ont été fermés à Béjaïa, la grande métropole régionale, et l'un d'entre eux a été saccagé. Un troisième bureau de vote y est toujours assiégé par des opposants au scrutin présidentiel. À Tizi Ouzou, autre grande ville de Kabylie, toutes les opérations de vote sont actuellement interrompues. Et à Alger, la capitale, des manifestants protestent contre le scrutin. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, maintenant en accord avec son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, le président français Emmanuel Macron a annoncé le report au début de l'année 2020 d'un sommet avec les leaders des 5 pays du G5 Sahel, initialement prévu le 16 décembre. Les précisions de Michel Joseph.
Le président français devait réunir lundi prochain à Pau les dirigeants du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, alors que Paris réexamine les modalités de son intervention au Sahel après le décès de 13 soldats français dans une collision d'hélicoptère au Mali. Le sommet a été reporté en raison de l'attaque mardi contre un camp militaire au Niger, a annoncé l'Élysée. L'attaque de mardi contre un camp militaire au Niger, loin de la frontière avec le Mali, a fait 71 morts parmi les soldats, l'attaque djihadiste la plus meurtrière dans le pays. M. Macron avait annoncé le 4 décembre qu'il avait convié les présidents sahéliens à cette réunion pour qu'ils clarifient leur position sur la présence militaire française au Sahel, de plus en plus contestée par leurs opinions publiques. Il avait souligné qu'il attendait d'eux qu'ils assument publiquement le fait que les soldats français sont au Sahel à la demande des pays concernés et non pas pour des visées néocoloniales. L'Élysée a précisé mercredi que toutes les options étaient sur la table, y compris un retrait des 4500 hommes des troupes françaises de la force Barkhane qui depuis 4 ans lutte contre les groupes djihadistes au Sahel.
Toujours concernant la situation au Sahel, l'ouverture samedi au Mali d'un dialogue politique. Ce dialogue national qui se veut inclusif va durer du 14 au 22 décembre. Et les consultations auront lieu dans un climat de pessimisme face à l'évolution de la situation au Mali et au Sahel. Le dialogue se tiendra sans les principaux opposants du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le leader d'opposition, Soumaïla Cissé, arrivé second à la présidentielle de 2018, a décliné l'invitation. Et les anciens premiers ministres Modibo Sidibé et Cheikh Modibo Diarra, anciens candidats à la présidentielle eux aussi, tournent également le dos.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Sahel n'est pas seulement affecté par les violences djihadistes et les affrontements intercommunautaires, mais aussi au changement climatique. Cette région à la lisière du Sahara émet peu de gaz à effet de serre comparé à des pays comme les États-Unis et la Chine, mais avec des températures qui augmentent une fois et demie plus vite que la moyenne mondiale, le Sahel subit quand même de plein fouet les effets du changement climatique. À preuve, le lac Wenia au Mali, qui fournit de la nourriture et de l'eau à des milliers d'habitants, s'amenuise de plus en plus en raison de la chaleur croissante et d'une pluviométrie imprévisible. Le reportage de Mariama Diallo avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Pendant des générations, la pêche sur le lac Wenya au Mali a été une source de vie et de revenus pour Modeste Traoré. Il avait espéré passer le flambeau à certains de ses enfants, mais son rêve est menacé par la hausse des températures et l'évaporation de l'eau sur le lac. Si ça continue, je ne pense pas que nos enfants puissent devenir pêcheurs. Mais nous essayons de nous assurer que l'eau du lac ne disparaisse pas complètement. Les précipitations imprévisibles et l'érosion ont également exercé une pression énorme sur les communautés. Le problème est que le lac rétrécit et que l'eau ne reste pas assez longtemps comme avant. Elle devient complètement sèche à un moment de l'année, ce qui nous inquiète beaucoup. Au cours des 20 dernières années, le lac a tari à plus de 80% pendant la saison sèche, selon Caritas Suisse, une ONG qui mène un projet environnemental dans la région. Le coordonnateur local Moussa Savadogo affirme que l'amélioration des pratiques agricoles et la gestion de l'eau sont cruciales.
Au moment de la décrue, les communautés descendent dans le lit du lac pour faire des périmètres maraîchers. Et au moment de la crue, tout le monde sort de ce lac en laissant les débris, les haies vives, les haies mortes dans le lac.
Et ce n'est pas tout.
Les institutions pluviométriques, plus les attitudes, le comportement des communautés, s'ils ne changent pas, vraiment dans 5 ans, le lac risque de disparaître.
Savadogo affirme que les habitants prennent des mesures pour préserver le lac. Ils ont planté 56 000 arbres pour reconstituer la forêt et maintenir leur source de vie. Il insiste sur l'importance de ce lac pour les gens qui y vivent.
Merci Abdourahmane Dia. Afrique centrale maintenant, l'ACPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a annoncé mercredi l'ouverture d'un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés de deux ex-chefs de milice de la République centrafricaine, dont un ancien haut responsable du football en Afrique. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
Patrice Edouard Ngaïsonan, ancien ministre des Sports, et Alfred Yekatom, alias Rambo, sont accusés de crimes commis pendant la guerre civile entre 2013 et 2014 en Centrafrique. Les juges de la CPI ont confirmé partiellement les charges portées par la procureure Fatou Bensouda à l'encontre des deux hommes, renvoyant l'affaire en procès. Les magistrats ont estimé qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsonan sont responsables de crimes tels que le meurtre, le viol, la torture, le transfert forcé de population, la persécution et autres actes inhumains. Ils ont par contre refusé de confirmer les charges restantes qui, selon eux, ne sont pas étayées par des éléments de preuve sans donner plus de détails. Ngaïsonan, 52 ans, a été arrêté en France en décembre 2018 avant d'être transféré à La Haye. Il était le président de la Fédération centrafricaine de football. Yekatom, 44 ans, a été remis à la CPI en novembre 2018. Ce député aurait, selon la Cour, commandé environ 3000 combattants anti-Balaka.
La lutte contre la corruption en Angola, le fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a dénoncé un règlement de compte politique et nié toute tentative de détournement de fonds au troisième jour de son procès mercredi devant un tribunal de Luanda. Et pour terminer, élection au Royaume-Uni, les bureaux de vote sont ouverts ce jeudi pour les élections générales anticipées cruciales pour la sortie du pays de l'Union européenne, promise au 31 janvier par le Premier ministre conservateur sortant Boris Johnson. Le chef du gouvernement et son adversaire travailliste Jeremy Corbyn ont joué mercredi leur dernière carte pour remporter un scrutin qui s'annonce très serré selon les derniers sondages. Jean-Roger Bion.
Boris Johnson a convoqué ces élections avec l'espoir d'obtenir une majorité absolue, lui permettant de tourner définitivement la page du Brexit qui divise profondément son pays depuis le référendum de 2016. Arrivé au pouvoir fin juillet, avec la promesse de sortir son pays de l'Union européenne, l'ancien maire de Londres a essayé de rallier les régions traditionnellement acquises au travaillisme mais qui sont favorables au Brexit. Son adversaire Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste, l'a accusé de faire des promesses qui se transforment en mirage le lendemain. À en croire le dernier sondage de la campagne publié par l'Institut YouGov, le parti conservateur serait en tête des intentions de vote avec 339 sièges sur 650. Selon l'Institut, un tel résultat serait la meilleure performance des conservateurs depuis 1987 sous Margaret Thatcher. Mais la marge d'erreur, l'impact d'un éventuel vote utile et la récente tendance en faveur du Labour Party peuvent encore conduire à un Parlement sans majorité, donc une prolongation de la crise.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.